plus de secondes à faire. Et voilà! Nous irons en tir de barrage grâce à Caden Primo, Danny.
Wow!
C'est parti pour match!
Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue encore une fois à votre balado préféré, je l'espère. Bon match, épisode numéro 14. Salut Danny.
Hey, moi c'est ma balado préférée.
Moi aussi. Alors, on accueille les gens pour cet autre épisode et ouais. Au moment où nous enregistrons ce 14e épisode, nous sommes à quelques jours de la date limite, l'heure limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey, le vendredi 8 mars à 15h, heure de l'Est, les jeux seront faits. Les équipes qui tenteront de s'améliorer pour aller le plus loin possible en série et les autres, comme le Canadien, qui tenteront de rebâtir pour le futur, auront terminé jusqu'à ce que vienne la finale de la Coupe Stanley qui, normalement, est un prélude au repêchage où l'on peut recommencer à faire des transactions en vue aussi du marché des joueurs autonomes qui revient le 1er juillet cette année. Alors, on va traiter de ça sur plusieurs angles, Danny. L'angle du Canadien, les principaux noms qui, dans la Ligue nationale, pourraient changer d'adresse, ceux vers qui on va jeter notre dévolu plus particulièrement, qui risquent d'être les noms les plus spectaculaires échangés. Mais il y a un angle intéressant parce que il y a tout l'aspect famille, Danny. Les joueurs de hockey sont des êtres humains. On va délocaliser des êtres humains dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Ça, c'est un aspect qu'on oublie puis on va explorer, bien sûr, avec toi. Le Canadien de Montréal voit actuellement son capitaine émerger et on va tenter de coudre et découdre ça pour essayer de savoir qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce que Nick Suzuki a fait exactement pour devenir le joueur qu'il est actuellement pour le Canadien. Alors, commençons, bien sûr, par le capitaine du Canadien. Il a été élu le joueur du mois de février chez le Canadien. Il n'y avait personne dans sa catégorie. Plus d'1,4 points par match. C'est son meilleur mois en carrière, Danny. Pourquoi il a eu son meilleur mois en carrière en février?
Bien, déjà, son entraîneur et lui, je pense, sont convenus de certaines choses, de son engagement, de son implication dans toutes les phases de jeu. Tu sais, quand tu dis jouer là, le 100 par 200 ou le 200 par 100, là, tu sais, en fait, la largeur, la longueur de la patinoire, de jouer dans toutes les facettes, de jouer des deux côtés de la rondelle, et plusieurs expressions, ça veut toujours dire la même chose. Quand tu n'as pas rondelle, tu dois être actif. Nick a été très bon dans le mois de février et moi, je prends la peine de le répéter. Là. Je les calcule, les actions défensives, puis ça le place parmi les joueurs les plus actifs, parmi les attaquants du Canadien de Montréal. À titre d'exemple, 18 mises en échec pour lui, là, c'est le double. Dans un mois, c'est le double de sa moyenne. Le double. Alors, c'est sûr que... Ça a eu un impact sur son jeu à 5 contre 5. Mm. Sa productivité à 5 contre 5 s'est améliorée pratiquement 15 % ça aussi, c'est pas négligeable parce que Nick, dans la première portion du calendrier, était plutôt ramassait beaucoup de points ou produisait beaucoup de points sur les unités spéciales, l'avantage numérique. Là, dans le dernier mois, c'est juste 6 points, là, c'est 2 buts, 4 passes, un avantage numérique, il y en a 17. Ça veut dire que le reste des points, là, c'est vraiment dans les situations à 5 contre 5. Ça, c'est bien.
Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi maintenant?
Pourquoi maintenant? Écoute, je pense que l'entraîneur a été assez incisif avec lui, lui a mis en perspective l'importance que s'il veut faire partie de l'élite mondiale, donc l'élite de la Ligue nationale.
C'est l'élite mondiale, la Ligue de la Ligue,
c'est ça.
L'élite
c'est,
de la Ligue
il faut,
nationale.
De il faut façon. Vraiment qu'il devienne, un joueur efficace à 5 contre 5. Tu peux pas, Martin, gagner si ton joueur n'est pas efficace à 5 contre 5, si tes meilleurs joueurs ne sont pas efficaces à 5 contre 5. Puis on le sait, là. Tu fais le tour de la ligue, tu regardes les équipes. L'équipe qui gagne le match à 5 contre 5, pratiquement 8 fois sur 10 va gagner le match. Alors, c'est sûr que les entraîneurs mettent l'accent là-dessus et Nick répond très, très bien.
Il y a eu probablement une prise de conscience. Je dis pas qu'il ne l'était pas avant, mais il y a une prise de conscience à quelque part, j'en suis sûr. Ouais. On lui a probablement montré des choses, Danny. Est-ce qu'on lui a dit « voici comment tu es à ton meilleur et voici là où tu l'es un peu moins? »
Ben dans le cas de Nick, je pense que c'est un joueur qui aime voir ces choses-là.
Oui. Et qui assimile. On nous dit, Danny, qu'il assimile très vite. Oui. Alors, quand on lui montre une chose, il n'a pas besoin de passer 8 jours là-dessus.
Oui. Mais tu sais, à un moment donné, il faut réconforter un joueur. Souvent, là, le joueur qui est le joueur que tu dois réconforter, c'est le joueur qui a des habitudes pour produire ses points. Et là, toi, tu veux casser les habitudes pour lui permettre d'être meilleur dans d'autres facettes sans négliger les points. Il faut que tu réussisses à lui vendre l'idée que s'il joue comme ça, il va produire autant, sinon plus.
Oui.
Et les buts et les passes vont être de qualité. Là, c'est vraiment important.
Ouais, ben, je veux insister là-dessus parce que le commun des mortels va croire que Martin Saint-Louis va voir Nick Suzuki et dit « Nick, ça va se passer de même à partir de maintenant. »
Mais non.
Tu sais, puis que là, il arrive le déclic, puis boum, Martin Saint-Louis a parlé fort à Nick Suzuki, puis Nick Suzuki a baissé la tête, puis il dit « OK, coach, je vais jouer comme ça, si tu veux. » C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, Danny. Puis j'ose le dire comme ça parce que il y a un élément qu'on oublie, là, puis il y a eu des films sur le sport où on a romancé des histoires où le héros du film se fait taper dessus par son coach, puis à la fin, il lève le trophée, c'est formidable. Mais dans la vraie vie, il faut que ce soit un peu plus subtil que ça, puis il faut que ce soit coopératif, Danny.
Oui, bien, en fait, la plupart du temps, celui ou celle qui écrit le script du film n'a jamais été dans le vestiaire. Là.
Oui.
Fait qu'en partant, il invente un peu à patente.
Non, puis on a tendance à éloigner ça de nos vies, Danny. On a tendance à penser que ça se passe différemment que pour nous tous.
Mm. Non, mais
c'est vrai que ça peut être un peu différent parce qu'il y a des paramètres qui sont différents. Mais à la limite, si on veut obtenir des résultats, tu ne peux pas être juste directif, surtout quand c'est ton meilleur ou un de tes meilleurs.
Non, ça passe pas. Déjà, on a parlé de la relation que l'entraîneur doit développer avec ses meilleurs joueurs.
Oui.
Bon, Martin Saint-Louis est bon dans ça, puis il comprend cette dynamique-là. Maintenant, lorsque les matchs... Tu sais, souvent, ce qui va arriver, c'est que les matchs vont te donner les outils pour parler à tes joueurs.
C'est ça.
Tu sais, le coach dit souvent, la game te parle.
Oui. Bon, mais c'est une
bonne exactement
base.
Ça qu'il veut dire.
Ouais.
Des fois, là, tu dis au joueur, ouais, tu devrais faire ci comme ça. Là, le gars te regarde, ouais. Mais il n'est pas convaincu. Moi, je me souviendrai toujours de la phrase de Pat Burns. À l'époque, il était l'entraîneur des Leafs de Toronto. Puis il a eu le malheur de dire une chose qui était quand même une vérité. Il a dit, il a fallu que je les laisse perdre, ils m'écoutaient pas.
Oui, oui.
Tu sais, c'était une manière de dire, il a fallu que j'attende que le match parle à mes joueurs pour que moi je puisse dire, regardez, gars, ça fait 3-4 matchs que je vous dis ça, ben là, on en est là. Alors, chez le Canadien, avec les joueurs clés, on a commencé par, évidemment, Cole Caulfield, parce que Cole Caulfield, c'est un dossier différent à cause de son physique,
ouais,
sa manière
ce
de
fait
jouer.
Sur la glace aussi.
Exactement. Après ça, il y a eu le jumelage de Slavkovski aux deux autres,
qui a fait
augmenter le niveau d'engagement. Puis à un moment donné, peut-être qu'il y a eu aussi une période où on s'est trop fié sur Slavkovski. On dit, lui, il va faire la job sale.
Ouais.
Là, lui, il va aller chercher les rondelles.
Il va aller faire la cuisine.
Il va aller faire... Non, mais il faut que ce soit une affaire des trois joueurs.
C'est ça. C'est là où il y a eu un switch, probablement.
Je pense.
Puis, Danny, évidemment, je parle de mon côté parce que le bout de ma responsabilité, c'est de me coller sur la rondelle puis de voir qui a la rondelle puis de dire à nos auditeurs ce qu'il fait avec la rondelle.
Ouais.
Et pour moi, ça a été instantané. Le Nick Suzuki des dernières semaines, je nomme constamment son nom.
Ben oui.
La rondelle est là, il est là. L'adversaire, là, il essaie de lui enlever.
Il coupe des jeux. C'est ça, il est plus actif. Et les gens peuvent le faire, là, ils peuvent aller voir parce que ça se répertorie. Là. Mais Martin, le joueur d'avant, vedette de la Ligue nationale, qui a plus d'activité défensive, qui bouge plus, qui est sur la rondelle. On est toujours dans Austin Matthews, McKinnon.
C'est Austin Matthews.
Et ces gars-là produisent un train d'enfer. Alors, l'entraîneur peut se servir de ces bonhommes-là et dire, écoute, les autres jouent de même. Pourquoi toi, tu jouerais pas comme ça?
Absolument.
C'est les meilleurs de la business.
Puis moi, j'ai l'impression, Danny, qu'il l'a dit subtilement, là, mais Suzuki est allé au match d'étoiles il n'y a pas longtemps. Puis il s'est tenu avec McDavid un peu. Il a dit qu'il avait parlé à ces gars-là et surtout, je les ai regardés. C'est sûr que dans le contexte d'un match d'étoiles, c'est pas pareil. Mais quand tu regardes attentivement quelqu'un puis tu t'aperçois que lui, c'est ce qu'il fait pour réussir, à un moment donné, tu essaies d'appliquer certaines recettes que ces gens-là ont envers toi. Surtout que Suzuki a le niveau d'habileté pour vraiment prendre le livre de recettes presque au complet de ces gars-là et de pouvoir l'amener dans son match.
Ben oui, ben oui.
T'sais, lui, il est capable.
Il est capable. tout ce qu'on veut de Nick, on est en train de l'obtenir. Mm-hmm. On est en train de l'obtenir. C'est un joueur qui arrive à maturité. Dans le dernier mois, c'est 1.54, là, c'est ça, points par match, là, 11 matchs, 17 points, 11 buts là-dessus. Seulement 2 buts en avantage numérique, ça veut dire c'est 9 buts à force égale. Martin, c'est énorme, là. Mm. Tu sais, c'est vraiment des bons chiffres, c'est des chiffres de joueurs vedettes. Puis on est capable, je pense, d'avoir ça sur une base régulière. Moi, je pense qu'on est capable d'être dans le plateau, un point par match avec lui, là.
C'était un peu ma question. Tu sais, Martin Saint-Louis a jamais hésité en disant c'est un gars d'un point par match. Ouais, pas de problème, ouais. Il l'a dit récemment. Est-ce que c'est un soubresaut? C'est un gars qui est capable d'être assez régulier. C'est difficile de penser que ce serait juste un soubresaut ou que ce serait juste pour une fin de saison.
Ben écoute, j'aimerais ça te dire, assurément, oui, ce n'est pas un soubresaut. Ouais. Je le sais pas. Parce que c'est le premier mois qu'il agit de cette façon-là. Martin, je tiens à le répéter, là. Mm-hmm. Lorsque tu vois l'engagement d'un joueur, tu vois le nombre de minutes. Nick, c'est un joueur qui joue dans les 16 minutes 30 à 55 et oui. plus. Donc, c'est un des joueurs les plus utilisés parmi le groupe élite de la Ligue nationale.
Avec son temps en avantage, puis même en désavantage numérique, quand ça force, Danny, c'est quoi? C'est 22, 23 minutes?
Oui, 22, 23 minutes tous les soirs.
Pour un attaquant.
Oui, oui, oui. Mais moi, je regarde son temps de jeu à 55 et sa productivité à 55, et il y a vraiment une grande différence. Et cette différence-là, écoute, je le dis très candidement, le Canadien de Montréal ne gagnera jamais si ses meilleurs joueurs sont pas bons à 55.
Ouais.
C'est aussi simple que ça.
C'est par là que ça passe.
C'est par là que ça passe. C'est la sobriété, c'est l'efficacité. Et Nick Suzuki nous donne actuellement un échantillonnage de ce qu'il est capable de faire sur une base régulière.
Deux, trois affaires pour le Canadien. Il s'est dit des choses intéressantes au cours de la semaine pendant ce voyage. Entre autres, la collaboration, l'échange, l'espèce de place qu'on donne aux joueurs, à leur... créativité.
Ouais.
Évidemment, Martin Saint-Louis dit toujours qu'il ne faut pas que ça coûte trop à l'équipe. Donne-moi-en, je vais t'en donner. Il y a toujours cet échange-là qui est très important.
Ouais.
Mais Nick Suzuki puis quelques autres joueurs de l'équipe, on leur donne des libertés, Danny, et ça renforce leur confiance. Même pendant la séquence de défaite récente du Canadien où ils en avaient perdu 5 d'affilée, le coach avait dit « on ne joue pas si mal que ça, même qu'on joue assez bien ». Ça avait déclenché beaucoup de sarcasme, mais j'ai l'impression que pendant cette période-là, l'attitude du coach et ce que Nick Suzuki a dit, entre autres, les plans de match du coach qui sont bien achetés par les joueurs parce qu'il y a cet espace-là à ce que les joueurs s'expriment. On n'a qu'à penser à la super passe de Harbour Jack High qui a provoqué justement un début de Nick Suzuki qui a été important dans le premier match de ce voyage-là contre les Panthers. Tu sais, les joueurs apprécient puis solidifient leur confiance de par cette relation où l'entraîneur dit « OK, quand c'est le temps, allez-y. Quand vous êtes capable de voir quelque chose, d'avoir quelque chose devant vous, allez-y.
» Bien, on est en train d'élever les gars. On est en train de leur donner de la latitude pour voir comment ils vont gérer cette latitude-là.
Puis là, comme il n'y a pas d'attente, c'est le temps de le faire.
Exactement ça. Oui. Exactement ça. Puis c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas prendre tous les entraîneurs puis les mettre dans le même panier en disant « Ah, ils sont restrictifs, tout ça. »
Lui, il ne peut pas travailler avec les jeunes.
Ben là, c'est parce que le contexte est différent à Montréal. Et vraiment, Martin a cette latitude-là, il l'utilise intelligemment.
Oui.
Tu sais, je pense que c'est important de voir qu'est-ce que les joueurs peuvent faire avec la latitude. C'est le même principe que la première fois que tu donnes les clés de l'auto à ton jeune, puis tu dis, gars, je te dis, il faut que tu sois revenu à 11h.
Ouais.
Puis fais ci, fais ça, fais attention à ci. Ouais. Ça, mais il faut que tu le laisses aller. À un moment donné, tu ne peux pas être assis à côté de lui.
Il faut qu'il devienne lui-même un conducteur responsable. Capable de lire ce qu'il y a devant lui.
Exactement. Alors, ça, c'est un exemple bien banal, mais ça représente exactement ce qu'on veut faire avec le Canadien. Le résultat de ça. Ben, Slafkovský qui fait une passe qui se transforme en revirement en but. Ça, Nick Suzuki en avantage numérique qui fait
mauvaise
une passe
entrée
à risque.
De zone. Ouais.
Bing, passe, but. Ça coûte le match. Ça coûte le point boni.
Ouais.
Parce que le Canadien était dans une situation, il menait 3-2. Alors,
puis
oui, il y a des
quand
beaux
tu
jeux.
Joues contre de bonnes équipes, Danny, je t'interromps, ils vont te faire payer tout de suite.
Exactement, Martin. Donc,
ça, c'est la différence.
Et là, comme il n'y a pas d'enjeu, ben, qu'ils te fassent payer tu es prêt à vivre avec ça parce que tu dis c'est le prix de l'apprentissage. C'est le prix de l'apprentissage. Ce que tu espères, c'est que l'apprentissage te coûte pas trop cher. T'sais, alors, je reprends mon exemple du véhicule. On va peut-être avoir un petit scratch sur l'auto, un petit graphing, un petit accrochage, mais tu veux pas qu'il arrive quelque chose, mais en même temps, tu te dis, s'il ne va pas, on le saura jamais. Il faut. Bon, il y a ce marchandage-là. Il existe de la même façon dans une équipe de hockey.
Mais on est capable, après ça, de ramener la bride un petit peu. Là, je résume ça à une phrase très basique. Quand je dis ramener la bride un peu vers l'arrière, on est capable, à ce moment-là, quand arrivent les attentes, quand arrive ton printemps, le printemps où tu dois être là.
C'est une excellente question. La réponse est quand même assez simple. Les joueurs vont toujours se tourner vers l'enjeu, vont toujours se tourner vers le résultat, vont toujours vouloir obtenir les meilleurs résultats possibles. C'est normal, c'est un environnement de compétition. Donc, à partir de ce moment-là, ce qui est important, c'est que l'entraîneur, lui, est favorisé le fait que faut que ça vienne des joueurs. Donc, tu favorises ça dans ta démarche. Il faut que ça vienne de tes joueurs eux-mêmes. Il faut qu'ils prennent la destinée de l'équipe entre leurs mains. Il faut pas que ce soit l'affaire du coach qui dit aux joueurs quoi tout le temps quoi faire. Il faut qu'il y ait un échange. Il faut qu'il y ait cet échange. Et cet échange, c'est ça que l'entraîneur est en train de bâtir. La complicité, le relationnel, de leur poser des questions par rapport à certaines choses. Puis là, graduellement, ça devient leur affaire. Alors, toute la processus de prise de décision, ça s'inscrit là-dedans.
Et je me souviens de Jacques Martin, il y a quelques semaines, qui avait dit son premier passage à Ottawa.
Oui.
Lui, il avait bâti ce groupe de jeunes.
Oui.
Il était arrivé, puis les Alfredson, les Spezza, et compagnie étaient de jeunes joueurs. Martin a bâti cette relation-là avec eux tranquillement jusqu'à ce qu'au moment où ils ont pu atteindre la finale de la Coupe Stanley, là, je ne dis pas que c'était plus facile pour Jacques Martin, mais au moins, il y avait des bases. C'est pour ça que Martin Saint-Louis, en travaillant, en étant toujours vraiment conséquent avec ce qu'il dit par rapport à ses joueurs, puis en travaillant comme ça, met les briques pour que quand viendra le temps, ses joueurs vont savoir exactement ce qu'il attend d'eux et vice-versa.
Bien, en fait, ça va passer par le capitaine, Martin. C'est là que tu focuses sur le joueur qui est ton premier messager. Il est le prolongement du discours de l'entraîneur. Tu peux réussir avec Caulfield, tu peux réussir avec Slavkovski, mais si Nick Suzuki ne joue pas de la bonne façon, c'est-à-dire jouer de la façon qui est préconisé ou privilégié par l'entraîneur, lui, il est le prolongement de ton discours. C'est le premier joueur sur qui tu dois compter pour donner l'exemple par ses actions.
Chez le Canadien, vendeur parmi les équipes qui auront des joueurs à offrir à d'autres formations de la Ligue nationale, on a identifié, évidemment, les vétérans David Savard à la défense, le gardien de but Jake Allen. Dans le cas de ces deux joueurs, il reste encore une année à leur contrat, Danny. Tanner Pearson est en fin de contrat.
Oui.
C'est un joueur qui a gagné la Coupe avec les Kings de Los Angeles. Il a de l'expérience à offrir dans ce département. C'est la même chose pour Savard. Mais il y a aussi le nom de Joel Armia qui commence à circuler.
Mm-hmm.
C'est un autre joueur à qui il reste une année de contrat. Je pense que c'est assez évident, Danny, les qualités que réunissent, entre autres, David Savard et Pearson, et aussi Jake Allen, puisqu'ils ont remporté la Coupe dans leur carrière, fait de eux des candidats assez intéressants. Il y a peut-être des joueurs que le Canadien ne veut pas perdre, et il y a peut-être des joueurs pour lesquels on est vraiment disposé à leur donner la chance d'aller vers une équipe gagnante.
Ben c'est sûr que Pearson, lui, c'est peut-être le plus attrayant à cause de la situation contractuelle. Il fin de contrat pour lui, donc c'est un joueur de location.
Oui.
On connaît le dossier, c'est beaucoup plus facile dans son cas. On cherche... C'est sûr que... Gagné la Coupe, mais ça fait déjà 10 ans, là. 10 ans, c'est long. Est-ce que l'expérience versus la contribution, on peut y trouver son compte? C'est sûr que Pearson peut aider une équipe, ça, c'est évident. Le prix à payer ne sera pas très élevé. Maintenant, pour moi, il y a des joueurs, il y a des situations assez spéciales. Celle de Jake Allen en est une. Moi, je pense que c'est un dossier qui va se régler s'il se règle à la dernière minute.
Oui.
Parce qu'il reste une autre année à son contrat. Je suis convaincu que le Canadien ne veut pas prendre une portion du salaire pour se départir du gardien de but. J'ai la conviction profonde qu'on est, on est convaincu du côté de la direction du Canadien qu'il va avoir à la toute dernière minute une équipe qui va être dans une situation d'urgence.
Même s'ils ont 5 millions de dollars de marge de manœuvre sous le plafond salarial, Danny?
Oui, parce qu'il leur reste un contrat à écouler où on peut retenir une portion du salaire avant le 1er juillet. Donc, est-ce qu'on s'en sert pour compléter une transaction ou est-ce qu'on s'en sert pour se départir de Savard ou de Jake Allen? Moi, honnêtement, si j'ai à choisir entre les deux, Savard reste, Jake Allen s'en va.
Oui.
Donc, dans l'ordre des priorités, vu qu'on a trois gardiens, là, c'est probablement la situation, puis ça n'a rien à voir avec la personne.
Oui.
C'est une situation qui est plus facile, plus évidente.
Dans le cas de Jake Allen, il y a d'autres gardiens de but qui sont disponibles à cette date limite.
Oui.
Mais dans les gardiens d'expérience, il est peut-être le cas le plus intéressant. On arrive à peine de Tampa Bay, où la semaine dernière, le gardien Vasilevskiy nous avoue que son corps ne lui offre pas la même latitude en raison de cette opération qu'il a subie à l'automne que dans le passé. Ça met un petit peu de plomb dans l'aile à la tentative du Lightning de garder sa place d'équipe repêchée dans l'Est. C'est un gars qui a joué beaucoup. Est-ce que des équipes comme, par exemple, Edmonton peuvent prendre la chance d'avancer plus loin avec un gardien Skinner qui va être très occupé d'ici la fin de la saison et, bien sûr, en série, les conséquences que ça pourrait avoir? On peut poser la même question, Danny, avec Georgiev au Colorado. Est-ce que Allen est encore une solution valable pour ces équipes-là, oui, ou intéressante?
Absolument. J'ai la conviction profonde que, autant dans le cas, et même tu peux inclure Los Angeles, il y a bien, oui, des équipes là, oui, qui se disent est-ce qu'on peut aller avec un gardien vraiment fiable d'expérience, puis pas avoir de deuxième ou pas de deuxième qui va nous garder à flot? Moi, je pense qu'il y a bien des équipes qui sont intéressées. C'est un dossier qui va se régler à la dernière minute parce que tout le monde regarde ses options. Puis évidemment que les équipes qui sont prêtes à payer pour un Jake Allen sont peut-être prêtes à donner un choix de repêchage, de, ouais, donner un espoir, mais ils vont demander aux Canadiens de garder une portion du salaire. Et moi, je suis à peu près sûr qu'il y a déjà plusieurs options sur la table. Puis que le Canadien va attendre à la dernière minute. Ça, c'est ma lecture, ouais, mais tu sais, j'ai pas d'informations privilégiées.
Dans le cas de Joel Armia, c'était intéressant parce, ouais, que Armia est depuis quand même assez longtemps à Montréal. Mm-hmm. Il vient à un moment donné où les défauts d'un joueur prennent presque plus de place que ses qualités.
Ouais.
Mais si on se souvient de l'épopée de 2021, mm-hmm, quand il a, notamment avec Corey Perry, formé un excellent quatrième trio, capable justement de garder la rondelle en fond de territoire offensive. Puis ces dernières semaines, Danny, Armia offre un bon rendement. Si on le place exactement à l'endroit où il doit être, dans les fameuses chaises, là, parmi le tableau de 12 attaquants, puis si on le place dans une bonne équipe, il pourrait être une acquisition intéressante, alors qu'on pense qu'il ne partira pas. Peut-être que lui offre une carte où même ça vaut peut-être la peine de prendre un morceau de salaire pour une année suivante, parce que Armia n'est pas un vieux joueur. C'est pas un joueur qui a été blessé gravement, mmh, puis qui est hypothéqué, là.
Non, mais il coûte cher. T'sais, si tu veux le faire jouer sur le quatrième trio, là, c'est cher. C'est pas mal cher. T'sais, quand ton contrat avoisine les 4 millions de dollars, là, tu joues sur un quatrième trio, c'est pas nécessairement ce que les équipes regardent. Par contre, l'an prochain, à pareille date, là, on s'en fout du contrat.
Ouais.
Il rentre pour les séries, puis c'est la fin du calendrier. Donc là, ça devient intéressant parce que c'est vraiment un joueur qui, selon moi, a eu ses meilleurs moments lorsqu'il était dans un rôle de soutien. Des avantages numériques, quatrième trio, 10 minutes par match. Moi, je pense que sa chaise est là.
Il y a aussi une question d'évaluation chez le Canadien parce que il y a du personnel en défense. Il y a beaucoup de jeunes défenseurs. L'émergence de Trouble, un retour en force de Harbour Jacky. Actuellement, après un séjour dans les mineurs, on le voit, il contribue même offensivement. Son tir lourd commence à trouver son chemin vers le filet. Danny, on a vu la superbe passe qu'il a fait à Nick Suzuki. Trouble a été blessé, mais c'est un gars qui s'est fait une place avantageuse en raison de ce qu'il a à offrir, c'est-à-dire un jeu physique et stable en défense. chance. Puis là, il faut ajouter les noms de Hodson pour le futur, les noms de Reinbacher, nom également du jeune Edström qui est en Suède et qui fait bien là-bas. Il y a beaucoup de monde. On a retourné, bien sûr, Barron dans les mineurs. C'est un gars qui pourrait figurer avantageusement dans les plans de l'équipe ou non. Ça, ce sont des surplus d'années qui pourraient éventuellement permettre à Kent Hughes de s'offrir un ailier ou même deux ailiers qui pourraient se greffer à cette équipe-là parce que après avoir eu des surplus en défense puis une bonne ligne de centre avec Kirby Dack, là, c'est à l'aile que cette équipe-là souffre offensivement.
Oui, c'est sûr que c'est capable d'aller chercher de la production offensive. C'est pas facile à trouver déjà, là. Par contre, des défenseurs non plus. T'as pas mentionné le nom de Logan Mailloux dans le groupe. Moi, je pense qu'à droite, c'est un joueur qui va pousser. On a des gauchers qui jouent à droite actuellement. Martin, oui. Faut pas que tu oublies ça, là. Fait que, Goulet. Dans le meilleur des mondes, Goulet retourne à gauche. Alors là, t'as Matheson, t'as Jack Eye, t'as Goulet, place-les dans l'ordre que tu veux, ces trois-là, ces trois chaises remplies, là, trois chaises occupées.
Absolument.
Donc, ensuite, c'est quoi? Bon, ben là, t'as Harris qui devient dans une situation un petit peu plus précaire. T'as également Kovacevic qui devient dans une situation précaire. Eux, ils sont ici. Imagine ceux qui sont même pas encore ici. Là.
Oui.
Donc, là, à droite, Mailloux frappe à la porte avec ce qui se passe dans les rangs mineurs. Moi, je pense que Reinbacher va faire un peu de temps dans la Ligue américaine. Ça, c'est mon impression. Alors, une fois que tu as fait ça, tu as fait le tour. Tu te dis, il y a trois gars, là, par la force des choses, qui deviennent des joueurs qui pourraient changer d'adresse dans un avenir assez rapproché, que ce soit cette année à la période de transaction,
ou
l'an
encore
prochain,
cet été, ou même cet été.
Avant le repêchage, ou en début de saison prochaine.
Mais pour avoir un bon ailier, Danny, capable de contribuer offensivement, il faut que tu puisses donner un bon défenseur.
Oui.
Ça va faire mal, le choix qu'on a à faire, puis probablement que le jeune défenseur qui va être demandé aux Canadiens, parce que quand on analyse des transactions, on les analyse toujours du côté à qu'est-ce que le Canadien donne. Mais s'ils veulent recevoir des choses intéressantes, faut donner quelque chose d'intéressant. Reinbacher est une valeur intéressante parce que c'est un premier choix. Logan Mailloux, est-ce que le Canadien va devoir se départir d'un défenseur qu'ils aiment, faire un choix difficile, même s'il y en a beaucoup, pour avoir quelque chose de bon? On ne peut pas donner un potentiel septième place ou réserviste puis espérer en retour avoir un ailier qui va se greffer à tes deux premiers trios.
Bien, ça dépend, parce que tu as des situations, Martin, je te donne des exemples. Il y a des organisations actuellement là, qui amorcent un virage. Tu sais, tu regardes les Penguins de Pittsburgh, c'est un exemple. Bon,
qui n'ont pas beaucoup de jeunes joueurs.
Ils n'ont pas beaucoup de jeunes joueurs. Ils ont quelques vétérans qui coûtent très cher. Bon, eux, là, c'est sûr que s'ils regardent la brigade défensive du Canadien, il y a des joueurs qui jouent chez le Canadien actuellement qui peuvent aller là-bas, qui coûteront pas cher, puis ils vont prendre un choix de repêchage en plus parce qu'ils en ont donné des choix de repêchage, puis ils en ont plus. Fait que cette combinaison-là peut te permettre aux Canadiens d'aller chercher un joueur. Je prends l'exemple des Pingouins. C'est peut-être pas le meilleur exemple en ce qui concerne les jeunes parce que dans leur organisation, ils en ont plus. Là, sinon, ils seraient dans l'alignement. Mais cette situation-là, Martin, pour moi, il y a des choses qui... Tu sais, je suis pas convaincu qu'on doit donner un joueur élite si on a des choix de repêchage à donner. Moi, je pense qu'il est comme un amalgame
Danny, tu sais, on aime beaucoup Kirby Dack, puis je pense qu'on referait pas la transaction dans l'autre sens. Mais ça a quand même coûté Romanov, un défenseur qui avait une place de choix dans l'organisation et que les amateurs aimaient. C'est le sens de mon propos. Ça se peut que celui qui parte fasse pas plaisir aux amateurs si on veut avoir quelque chose de bon en retour.
Non, c'est sûr, mais en même temps... tout est relatif. Moi, en ce qui me concerne, moi, je pense que les joueurs qu'on a mentionnés, autant Justin Barron que Jordan Harris ou même Kovacevic, c'est des joueurs qui ont une valeur parce qu'ils ont des matchs dans la Ligue nationale. Puis il y a des organisations qui sont prêtes à prendre ces gars-là puis les faire jouer. Quand tu regardes, là, Martin, là, t'as à la défense, là, t'as au moins 25% des défenseurs de la Ligue nationale qui ont voyagé, qui ont été repêchés par une équipe, qui se sont retrouvés dans une autre organisation. Puis là, c'est pas des gars de 30 ans, je te parle de jeunes joueurs.
Oui.
Pourquoi? Parce que t'arrives des situations où il y a un surplus. Alors, maintenant, est-ce que ça va te permettre, est-ce que Jordan Harris va te permettre d'avoir un joueur élite? Non, mais de toute façon, un joueur élite, il est pas disponible.
Oui.
Et si on était en mesure de trouver un autre Kirby Dach, ben là, je te rejoins. Là, il y a une grande...
Là, ça coûterait peut-être un Ryan Backer ou un espoir de cette qualité-là.
Un joueur de cette qualité-là, un Mayu, un gars comme ça. Absolument. Ah oui, absolument.
Alors, Danny, évidemment, pour compléter des transactions, sans dire que le Canadien n'est pas dans l'urgence. C'est là où je veux en venir. Mm-hmm. On a parlé tantôt de ces trois vétérans qui ont encore des contrats pour l'an prochain. Il y a certainement des choses, des discussions qui vont s'amorcer d'ici vendredi, qui ont déjà commencé, puis c'est des choses qui vont finalement se régler seulement en juin ou en juillet pour le Canadien de Montréal. Le feu n'est pas pris dans la maison, puis Martin Saint-Louis à Nashville a dit, tu sais, il y a des choses qu'on remplace difficilement dans une équipe de hockey, le leadership de savoir ce qui amène quand les matchs sont finis, dans le vestiaire, autour de l'équipe. Je ne vais pas là pour Jake Allen parce que trois gardiens, ça commence à être trop. Puis je pense qu'on rêve d'avoir un peu de stabilité avec Primo et Montembeau pour les prochaines années. Mais tu sais, il y a des affaires dont on peut difficilement se passer, même quand on décide de se tourner vers les jeunes.
Oui, bien, en fait, c'est que il y a un temps de formation. Tu sais, Savard va s'en aller, là, mais il s'en ira pas là. Mais il y a un temps de formation. Les Jacky, les Goulet, ces gars-là doivent prendre du galon. Parce que eux, ils regardent leur équipe, les entraîneurs, puis ils se disent est-ce que Mike Matheson, c'est le dauphin de David Savard? La réponse, probablement non.
Ouais.
C'est en termes de leadership, puis de présence, puis de prestance.
C'est pas la même chose.
C'est un autre genre de leadership, beaucoup plus sur la glace, dans sa façon de se comporter, mais. Eux, là, ils doivent trouver le dauphin à l'intérieur des jeunes. Probablement que Goulet a un ascendant
profil pour ça, en tout cas.
Sur ses coéquipiers et tout ça.
Et surtout dans sa façon de jouer, ce serait plus naturel que ce soit lui qui puisse remplacer éventuellement Savard.
Mais à ton point, je pense que c'est la raison pour laquelle... Des fois, on regarde une situation, on se dit « Ben oui, mais là, s'ils obtiennent ce qu'ils veulent, ils vont l'échanger. » Mais des fois, la meilleure transaction, c'est celle que tu fais pas. C'est le joueur a tellement d'intangibles payants pour ton organisation où tu es dans ton espèce de cheminement organisationnel, parce que c'est comme ça. C'est pas juste la question d'un ou deux joueurs, c'est la question de toute l'organisation. Fait que moi, je suis pas trop inquiet. Je pense pas que David va partir, à moins, encore une fois, là, on n'a pas de boule de cristal, mais ça prendrait un vrai coup de circuit pour le sortir d'ici.
La période de transaction implique le déplacement de personnel. Les amateurs de hockey regardent ça. On est tous un peu excités par cette journée-là. On voit les noms défiler et tout ça. Puis on perd un peu la perspective de l'être humain là-dedans.
Ouais.
Ça a été abordé ces derniers jours avec les joueurs à qui dont on mentionne les noms, que ce soit Savard, que ce soit Allen, Pearson. Ouais. Ce sont de jeunes pères de famille, Danny. Il y a des gens derrière. Quelle décision on prend sur le plan familial si on a une chance d'aller gagner avec une équipe championne? Oui, mais c'est peut-être de laisser derrière une conjointe avec de jeunes enfants, puis c'est peut-être tourner la page vers une vie qui va être un peu plus virtuelle avec les nôtres. Ça, c'est pas facile. Il y a un élément humain derrière tout ça qui est important.
Ouais.
Je peux pas m'empêcher de penser que ces déplacements, ces déménagements forcés qui font partie du quotidien des joueurs de hockey, de leur vie, de leur carrière, ça vient avec la job, fait en sorte que on déplace du monde. Ça prend de logistique. Il faut s'occuper de ça. Il faut sécuriser les familles. Puis notre précieux commanditaire du balado Bon Match, Remax, intervient lorsque vient le temps de relocaliser les familles. Mm-hmm. Il y a tout ça derrière le fait qu'on échange le joueur X contre le joueur Y, puis tout le monde est bien excité. Il y a cet élément-là qui est bien important.
Bien, c'est super important. C'est pour ça que les gens dans les organisations développent un lien de confiance très fort avec les épouses, avec le monde, l'entourage, l'équipe, pour être capable justement de leur prêter main forte dans ces moments-là. C'est quand même des moments assez émotif. Tu sais, tu parlais on parle de Remax. C'est le fun de la transaction parce que acheter la maison, c'est toujours un moment assez, c'est fébrile. Tu sais, tu t'achètes une maison, c'est pas rien. Là.
Ouais.
Donc, t'as des gens qui t'entourent, qui te conseillent, etc. Mais dans le cas qui nous intéresse, ça, c'est une dynamique qui est complètement différente. C'est vraiment, et tu fais bien de le mentionner, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'argent pour ça. T'sais. Je veux dire, quand t'es un jeune joueur, c'est, on dirait que te faire échanger, ça te brise le cœur parce que t'as l'impression que t'es trahi par l'organisation
ben
qui
oui.
t'a repêché. Ils te laissent tomber.
Ben
ils
oui.
Ils t'aiment pas. Ouais. Ou
ils t'aiment, il y a mieux ce qu'ils vont retenir en retour.
Ben, c'est ça. Mais celui qui passe, ouais. souvent, ce qu'il pense, il m'aimait pas assez.
Ouais.
Mais de l'autre côté, les plus vieux joueurs sont quand même prêts mentalement à ça. Ils savent que c'est une situation qui est récurrente, premièrement, quand tu arrives à un certain âge dans ta carrière. Et je pense que ça peut être beaucoup plus difficile pour un gars comme David Savard de considérer ça, que de Jake Allen, de considérer cette alternative-là, parce que leurs familles sont installées à Montréal. Et eux autres, là, ils ont pris l'engagement de venir bâtir quelque chose à Montréal. Et évidemment, ben ça fait partie de l'équation. Tu dis bâtir, mais peut-être que je serai pas là à la fin. Martin Saint-Louis, dès ses premiers instants avec l'équipe, l'avait dit, vous êtes là pour planter les arbres, mais je suis pas sûr que vous allez voir la forêt quand elle va arriver à maturité.
Effectivement. Puis les gens le savent peut-être pas, mais dans les organisations, il y a des employés qui aident. Ils sont pas seulement là pour ça, bien évidemment, mais ils vont aider les familles à se relocaliser. Les organisations qui ont de la classe vont même continuer peut-être parfois à aider la famille qui est restée alors que le joueur, lui, est déménagé dans une autre organisation.
Oui, je comprends.
Il y a ça qui est bien important.
Oui.
Les organisations de classe, Danny, le font.
Absolument.
Là-dessus, on s'arrête et on va aller ailleurs dans la Ligue nationale. Danny, cette date limite des transactions risque, comme à chaque année, de nous amener des choses intéressantes sur la table, des déceptions. Il y a des années où on a passé beaucoup d'heures d'émissions spéciales dans des antennes spécialisées où il se passait pas grand-chose. Mais il y a deux prises majeures disponibles dans le marché. Le défenseur Noah Hannifin des Flames de Calgary et l'attaquant Jake Guentzel des Penguins de Pittsburgh. Ce sont les deux joueurs les plus intéressants, les valeurs les plus belles disponibles à cette date limite des échanges. Bien sûr, au moment où nous enregistrons ce 14e épisode, ils sont toujours avec leur équipe respective. Mais Guentzel et Hannifin, dans des environnements particuliers, bien entourés, vont avoir un impact assez rapide dans l'équipe à laquelle ils seront échangés, s'ils le sont, mais vraisemblablement, dans ces deux cas-là, ça devrait arriver.
Oui, ben écoute, c'est des joueurs
c'est
qui...
deux joueurs en fin de contrat.
Deux joueurs qui ont vraiment des qualités essentielles pour des équipes gagnantes. Les équipes recherchent ce genre de joueurs-là. Guentzel, c'est un marqueur naturel, c'est un gars qui peut marquer 40 buts. Écoute, c'est vraiment là un joueur d'exception, moi, je pense. Et je fais une petite parenthèse avant d'aller à Hannifin. Je veux juste dire que Guentzel est probablement très, très, très content du contrat d'Elias Pettersson. Je m'explique. Parce que quand on regarde, moi, j'ai fait le décompte des trois dernières années, les meilleurs marqueurs, au 25e rang, Jake Guentzel.
Quand même.
25e rang. Qui est 26e? Elias Pettersson.
Alors...
Les deux ont le même nombre de points. Je pense que c'est 260 points.
Il se retrouve en bonne position parce que l'équipe qui va aller chercher Guentzel, c'est un gars qui est à la trentaine maintenant. Il va avoir encore, disons, quatre bonnes saisons de hockey à offrir aisément à sa prochaine équipe. Est-ce qu'il va marquer autant, produire autant de buts? C'est difficile, mais il va avoir des bonnes saisons en avant de lui. Alors, tu vas chercher un joueur comme ça, tu veux le signer, Danny. Tu veux le garder.
Ça va être 11 millions.
Au-delà de la période de location, puis ça, c'est pas évident.
Ça va être 11 millions, là. C'est ce que je suis en train de dire, c'est que l'agent de Guentzel va regarder cette situation-là et dire « Hey, Elias, là, tu vois, là, dans les trois dernières années, là, voici la production, puis voici la production de mon client. » Fait que moi, on est dans cette zone-là. Alors, cette zone-là, Martin, là, il va passer du 134e ou 140e rang, quelque chose comme ça. 143e, voilà. 143e rang au niveau des joueurs les mieux payés de la Ligue. Et là, il va revendiquer de se replacer parmi les 10 meilleurs joueurs.
Par contre, puis là, ça nous permet de faire un lien vers Noah Hannifin. Ça reste que ces deux joueurs-là, pour être dans un bon environnement gagnant, un environnement à succès, pas une équipe qui va devenir bonne dans 3 ans ou dans 2 ans. Mm-hmm. Là, il y a des compromis à faire. Puis il y a des joueurs qui en ont fait des compromis, puis ça a payé. À un moment donné, Steven Stamkos a fait un tout petit compromis parce qu'il aurait pu avoir mieux avec les Maple Leafs de Toronto, signe à Tampa Bay, gagne un championnat. Il y a des compromis à faire. Et ces deux joueurs-là vont peut-être devoir en faire. Alors qu'Elias Pettersson, lui, c'est un jeune joueur à qui on a acheté des années d'autonomie pour le garder le plus longtemps possible, n'est-ce pas?
Ben oui, parce qu'on fait la même chose qu'on a fait avec Miller. Parce que Miller coûte 8 millions par année, là. Puis c'est le 10e meilleur marqueur de ce groupe-là. Il fait partie du groupe élite. J.T. Miller fait partie de l'élite. Il est dans le groupe des 10 plus productifs des attaquants des 3 dernières années. Il coûte 8 millions par année. Fait que c'est sûr que ces gars-là, c'est des joueurs que, parce que tu as signé du long terme, tu as acheté des années, c'est des années à rabais. Même chose pour Mathieu Tkachuk, qui gagne 9,5.
Mais tu vas le faire avec des joueurs de 25 ans, moins des gars de 30 ans, Genzo. Et Anofin qui approche la trentaine.
Oui, mais moi je te dis, les gars qui vont sur le marché prendront pas de baisse salariale. Là.
Non. Mais des fois, tu as des décisions à prendre. Est-ce que je suis dans une vraie bonne équipe, bien entourée ou moins, quand les offres arrivent sur la table?
Oui, mais...
Je parle pas de 2 millions de différences par saison, là. Mais des fois, il y a des décisions à prendre.
Ça aurait été intéressant, mais moi, je pense que Gensel, sa cible, ça va être 11 millions.
Évidemment, Danny, il y a des coups qui marchent. Il y a des équipes bien nanties qui, elles, n'auront pas besoin de gros morceaux à ajouter dans leur formation. Ça aussi, c'est un bel avantage parce que on regardait, entre autres, la semaine dernière, les Panthers de la Floride. Il y a un équilibre dans cette équipe-là. Il y a presque tout. Il y a de l'expérience. Il y a des marqueurs. Il y a des équipes qui ont moins besoin que d'autres. Alors, la date limite des échanges, c'est un exercice important. Mais quand tu as besoin juste de profondeur,
c'est pas pareil.
Et que les chevaux, tu les as, on est dans un autre monde.
Oui, c'est pour ça que Pearson va partir, là. Lui, quelqu'un va le prendre parce que c'est un joueur qui va amener de la profondeur. Puis que pour les autres, à cause des considérations financières, les aménagements vont être trop compliqués. Peut-être pour la situation du gardien, ça va être différent parce qu'il y a de l'urgence là. T'as besoin de 2 gardiens pour aller en série, selon moi. Ça reste très hypothétique, mais ça, c'est ma philosophie à moi. Je pense que c'est important parce que souvent, ton deuxième gardien peut changer le momentum d'une série. Oui. C'est important.
En gardant un but pour un match.
Un match ou deux là, à des endroits stratégiques. Il va t'amener quelque chose. Donc, mais les gros noms, là, la transaction peut avoir lieu, mais... Écoute, je reste convaincu, autant pour Anofin que pour Gensel, les organisations vont avoir à réfléchir sur l'aménagement pour faire de la place à ces gars-là, parce que d'après moi, très humblement, je pense pas qu'ils vont accepter des baisses de salaire.
Laissons les transactions, Danny, et revenons à un bonhomme qui fait parler beaucoup actuellement dans la Ligue nationale. C'est le jeune Matt Rampe des Rangers de New York.
C'est un marqueur de but?
Non, il n'a pas marqué de but. Il n'a pas été choisi joueur de la semaine. Il n'a pas été choisi non plus recrue du mois de février. Son histoire, elle se vit comme suit. Lorsque le Canadien a joué contre les Rangers il y a quelques semaines, Blake Wheeler se blesse. Il est visiblement blessé gravement. Il a besoin du soutien des soigneurs de l'équipe pour quitter la patinoire. C'est une collision, peut-être pas accidentelle, mais qui a fait beaucoup trop de dommages pour l'intention qu'avait Struble lorsqu'il l'a mis en échec. Un accident, c'est des choses qui arrivent sur la patinoire. Wheeler amenait de l'offensive aux Rangers de New York, une présence sur l'avantage numérique. On se tourne vers le club école de Hartford dans la Ligue américaine et on rappelle Rampe. Rampe fait 6 pieds 7 pouces, plus de 200 livres. C'est un gaillard, c'est un costaud. C'est pas un joueur qu'on place sur une ligne, sur un trio offensif. C'est un joueur qui a tout de suite arrivé dans la Ligue nationale à ses premiers matchs. Jette les gants contre les gars les plus durs de la Ligue. Un gars comme Deslauriers. Deslauriers a pas peur de personne, il a pas froid aux yeux. c'est un bagarreur là, de très haut niveau. Il faut avoir du courage pour se frotter à des lauriers. Il y a eu un événement en fin de semaine dernière dans le match entre New York et Toronto. Libushkin, qui vient juste d'être acquis dans une transaction par les Leafs, il se fait frapper par Rampe. Et Rampe ne va pas pour la rondelle. On le voit partir là, dans le coin. Et il veut punir Libushkin. Le jeune Rampe, on peut comprendre. 6 pieds, 7 pouces, t'es capable de jouer physique, affronter les bagarreurs les plus redoutables de la Ligue, même si on s'en va en diminution, là, on peut comprendre de son côté. Mais que la Ligue punisse pas, que la Ligue ne suspende pas Rampe pour le geste contre Libushkin, c'est une autre chose, Danny. Mm-hmm. Puis là, Ryan Reeves arrive là-dedans. J'ai l'impression qu'on recule de 10 ans, Danny, avec tout ça, n'est-ce pas?
Ben, écoute, il y a déjà de voir que, il y a beaucoup de bagarreurs dans l'Est. L'arrivée de Reeves, pour moi, ça a envoyé un mauvais message. Mm-hmm. Il arrive avec Toronto. Est-ce que les joueurs des Leafs de Toronto se faisaient malmener durant la saison régulière? Est-ce qu'on s'est dit, si on a un justicier, il n'y a plus personne qui va toucher à nos joueurs?
Moi, j'ai jamais pensé que ça les avait empêchés d'aller en finale de conférence, Danny, se faire malmener.
Ben
les problèmes étaient ailleurs. Mais ils sont allés le chercher.
Ben regarde, moi je le vois de cette façon-là. Actuellement, là, la Ligue est à la croisée des chemins. On doit continuer à marteler le fait qu'on veut du hockey propre.
Oui.
On veut du hockey intense. Le côté physique, on ne veut pas l'éliminer. Les coups à la tête, les coups vicieux, on veut les éliminer. Ben, donne des suspensions. Sois incisif sur ces jeux-là. Que les arbitres arbitrent de la même façon au mois d'octobre, puis au mois de février, au mois de mars. Ce qu'on voit là, qui est en train de diminuer. Après ça, le commissaire de la Ligue nous dit qu'il y a autant de pénalités. On le voit qu'en série, il y a plus de pénalités en première ronde, puis après ça, on commence à fermer les yeux.
Ouais.
Peut-être qu'au cumulatif, il y en a le même nombre, mais la répartition n'est pas correcte.
Puis là, les coups après le sifflet sont plus nombreux aussi.
Toutes.
Il y a une escalade.
On l'a vu à Tampa Bay, le Lightning s'est mis à picossé, si on prête l'expression, donc vraiment à être harcelé, à tenter de déranger le Canadien, ce qui a fonctionné. Puis c'est correct, tu as le droit de le faire, mais à un moment donné, tu sais, dans tout ça, ce qui est important, c'est la constance de l'arbitrage et l'élimination de la bagarre. Moi, je suis convaincu, Martin, que si on élimine complètement la bagarre et qu'on est très sévère, très incisif sur les décisions qui ont à être prises sur la patinoire, et qu'ensuite, on est également très cohérent puis très sévère au niveau des suspensions. Graduellement, tout ce qui est coup vicieux, ça va disparaître.
Parce que le code, il fonctionne plus, Danny. Il fonctionne plus parce que, par exemple, l'exemple du match contre le Lightning est très intéressant. Cernak donne un assez violent double échec à Brendan Gallagher. C'est évident, ça se fait devant les yeux des arbitres. Les arbitres, ce soir-là, pour faire un cas personnel avec les deux qui étaient là, ils ont été permissifs sur ces affaires-là. Puis on regarde les faits saillants des autres matchs, ils sont de plus en plus permissifs avec le temps de l'année. Même si quelqu'un, Arber Jacky, par exemple, avait été jasé avec Cernak en lui parlant du code, Cernak n'est pas un bagarreur. Arber ne fait pas que ça avec le Canadien, là, bien évidemment, puis on va le développer là-dessus tantôt. Là. Mais Cernak aurait très bien pu dire à qui que ce soit, ben moi, je suis pas un bagarreur, puis ça m'intéresse pas de jeter les gants contre toi. De la même façon, Danny, que Anthony Cirelli donne une bonne droite au visage de Goulet après un sifflet. Goulet en perd son casque. Alors là, c'est pas trop pire, là, parce qu'il n'a pas été blessé. Mais imaginez s'il tombe à la renverse sans son casque et que là arrive encore le fameux code. Non, mais Anthony Cirelli ne jettera pas les gants contre aucun costaud du Canadien, que ce soit Anderson ou Jacky, en représailles à un coup comme ça. C'est pour ça, Danny, que je trouve que le code, ça ne marche plus. Alors, faut que ce soit le code des arbitres puis le code de la sécurité routière, là, tu sais, le livre de loi. C'est ça qu'il faut qu'il prime. En ce sens-là, si on applique le livre de loi, Rampe, là, s'il ne peut pas faire dévier des rondelles devant le gardien, à 6 pieds 7, là, s'il est capable de faire ça, ça va aller. S'il ne peut pas prendre des retours de lancer, s'il ne peut pas avoir une bonne game défensive sans essayer d'aller tuer les gars le long de la rampe, les séries vont commencer, ils mangent du popcorn sur la galerie de presse, ils ne jouent plus. Alors, ça ne donne pas grand-chose.
Moi, j'ai... Je ne veux pas manquer de respect à personne qui joue dans la Ligue nationale, là. Mais pour moi, L'équation est simple. On prend l'exemple de Jack High. Demain matin, il n'y a plus de bataille. Jack High est capable de jouer puis capable de contribuer.
Parce qu'on l'a vu pas plus tard que la semaine dernière faire une bon passe tir, incroyable, il y a un bon lancer.
Exactement, un bon patineur.
Puis la preuve de ça, Danny, le Canadien l'a envoyé dans la Ligue américaine cet automne. On ne l'a pas envoyé dans la Ligue américaine parce qu'il avait perdu 3 combats. Là. On a dit... Va apprendre à bien gérer ton territoire.
Ben oui.
Va apprendre à cerner puis à faire des lectures de jeu. Alors, on veut faire un joueur de hockey, puis il va faire un joueur de hockey, Harbert Jack High.
Puis moi, je vais dire une chose à la Ligue nationale. Actuellement, les organisations qui gardent un bagarreur dans leur alignement, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance aux autorités de la Ligue.
Absolument.
Parce que si...
À l'application du livre de loi.
Exactement. Fait que là, il n'y a pas de shérif, on va aller chercher un shérif. T'sais, c'est un peu ça l'idée. Là. On n'est pas assez incisif, on ne peut pas leur faire confiance. Avec nous autres, ça va être ça. Fait que, à un moment donné, et puis je reviens là-dessus, là, il y en a qui... Je les entends déjà, les gens disent « Ouais, mais quand ils t'en blessent un joueur à toi... »
Ouais.
Hein, puis tu perds un bon joueur. Ben,
oui.
Moi,
oui.
La réponse, je l'ai. Je répète ma solution. Enlever le joueur de l'alignement. Si l'équipe, tu donnes une suspension, ben le joueur suspendu, c'est 10 matchs. Mais tes 10 matchs à jouer à 19 au lieu de 20. Après ça, etc. Il s'agit d'être créatif et trouver des situations qui vont faire que ce ne sera pas permissif.
Mais ça va être difficile à passer avec ceux qui sont à l'autre bord de la table, les partenaires, l'association des joueurs.
L'association des joueurs, là, leur job, là, c'est de protéger tous les membres.
Oui, même ceux qui se battent.
Protéger tous les membres.
Oui.
Tous, sans exception.
Et d'avoir le plus d'emplois possible.
Donc, s'il y en a un qui met fin à la carrière de l'autre, on le protège-tu? Moi, je pense qu'à un moment donné, il y a une ligne à placer pour le gros bon sens. Alors, le gros bon sens, c'est quoi? C'est un jeu physique, c'est un jeu d'émotion. Il faut que ça reste là. Il y a des suspensions. On a établi un processus pour évaluer ce que c'était, pour donner des pénalités aux joueurs, ensuite de les suspendre dans le cas échéant. Mais si la pénalité, c'est de suspendre un gars pendant, je le répète, 5 matchs, 6 matchs, remplace-les pas.
Mais encore là, tu sais, puis il faut le dire, Rempe, il profite d'un système qui existe.
Bien sûr.
Lui, il arrive, il veut faire sa place. C'est un géant de 6 pieds, 7 pouces. Il déteste pas ça, puis il a pas peur, visiblement, parce que d'aller face à face au bout du point avec Nicolas Deslauriers, puis avec Reeves, puis avec les autres avec qui il a valsé jusqu'à maintenant, faut pas être peureux, là. D'après moi, il y a ça en lui, là, sans problème. Puis je pense que Jack High est aussi là, mais faut qu'il puisse devenir un joueur de hockey.
C'est ça. Puis l'équation, c'est la suivante. Est-ce qu'il est capable... Mettons qu'il n'y a plus de bataille le matin, ce gars-là, est-ce qu'il est capable de jouer? Puis moi, je reste convaincu que la journée, Martin, parce que ça, c'est un élément que je veux vraiment expliquer aux gens qui nous écoutent. Là, je sais que toi, tu le sais, mais des fois, là, la pression la plus importante, c'est celle du vestiaire.
Oui.
Toi, là, si t'es un joueur, tu veux contribuer.
Oui.
Tu veux que tes coéquipiers ont un ascendant sur toi, ils t'influencent. Tu veux trouver une manière d'aider l'équipe.
Tu veux te sentir important dans cette équipe-là.
Si tu blesses un joueur, puis t'es suspendu une couple de matchs, puis ça donne, tu sais, ça dans le fond, ça coûte rien à l'équipe, ben, t'es aidé. Sournoisement, c'est ce qui se dit.
Oui.
Mais si tu blesses un joueur, puis t'es suspendu 5 matchs, puis qu'au lieu de jouer à 20, on joue à 19, t'aides plus ton équipe.
Non, sur le fond, Danny, là, il n'y a pas personne qui va te dire que t'as tort. Mais dans l'application de ça, là, moi, je vois pas ça arriver pour la bonne et simple raison que c'est pas avantageux pour les propriétaires qu'une chose comme ça arrive, puis c'est pas avantageux pour les joueurs non plus. Quand tu te penches dans la façon dont ils regardent leur jardin, Dan.
On en reparlera quand un joueur vedette se fera assommer.
On espère que ça arrivera pas, mais faut être conscient que ça peut arriver.
Et quand ça arrivera, ben là, les dirigeants... Autant des équipes que de l'association des joueurs n'auront qu'à se regarder dans le miroir. Parce qu'il n'y a absolument rien qui empêche les joueurs actuellement de blesser un autre joueur. Puis moi, ça, pour moi, il faut que ce soit encore plus incisif en termes de suspension. Puis il faut que ça fasse mal également à l'équipe, pas juste à celui qui a été fautif.
À suivre, mesdames, messieurs. Merci à Martin Plamondon, merci à Pierre Gervais qui sont nos précieux complices pour ce balado. Bon match, mesdames, messieurs.
Bon match!